Radio Barque, notre troisième partie avec notre invité Ludovic Roux. Nous avons beaucoup parlé de la Chambre d'agriculture. Nous y restons encore sur une troisième partie avec, alors parmi les éléments de programme que vous avez énumérés, Monsieur Roux, il y avait l'eau. Alors on n'a pas évoqué peut-être aussi, j'ai envie de dire, puisqu'on parle de l'eau, le soleil. C'est-à-dire que on parle beaucoup, de plus en plus, d'agrovoltaïque, de photovoltaïque. C'est pas toujours bien accueilli. Alors on a besoin d'une explication.
Alors en effet, c'est un sujet très complexe et qui amène beaucoup de discussions. Donc nous, on a une position assez claire. Hein. Donc on privilégie le photovoltaïque sur les toits, sur les parkings, par exemple. Et donc, tout ce qui est terre agricole, par principe, on est plutôt opposé.
Et les terres agricoles, ça serait ça, l'agrovoltaïque?
Alors, voilà, on préfère de l'agrivoltaïsme, voilà, c'est plutôt le terme employé, quand on parle de terres agricoles. Alors après, comme vous l'avez compris, on n'est pas dogmatique. Il y a des terrains qui peuvent être propices au photovoltaïque parce que l'agriculture y est impossible, voire très difficilement applicable. Mais par contre, par principe, on est plutôt opposé sur les terres agricoles. On privilégie d'abord les sujets collectifs. Donc on aimerait qu'il puisse y avoir des projets collectifs par territoire, concertés, un peu comme sur le sujet de l'eau, où on obligerait quelque part les énergéticiens à partager la valeur avec ce territoire et à mettre des panneaux, ou en tout cas, oui, pourquoi pas même de l'agrivoltaïsme, dans des endroits que l'on trouverait sur ce territoire propice. Et enfin, donc l'agrivoltaïsme, il y a une règle qui est très claire, hein, c'est que le revenu de la parcelle doit être d'abord agricole, avant d'être sur l'énergie. Et donc ça demande un travail de recherche et de développement, surtout qu'on est sur des territoires où l'agriculture a des chiffres d'affaires plutôt modestes, malheureusement, et donc l'énergie peut vite prendre le dessus.
Oui, ça fluctuant et difficile peut-être à chiffrer.
Voilà, donc on doit avoir un gros travail là-dessus, donc par principe on n'y est pas opposé par contre, parce que en plus ça peut être des solutions même pour, ben, justement, le soleil est un allié pour l'énergie, mais il peut être aussi un allié pour faire du bon vin, et parfois ça peut être un adversaire parce que quand il tape trop et trop fort, il peut brûler des raisins, brûler des récoltes d'autres végétaux. Et donc l'agrivoltaïsme peut aussi aider à protéger par moment dans les coups de soleil trop forts. Donc on est beaucoup plus ouvert quand même à travailler sur l'agrivoltaïsme, même si il faudra être très prudent parce que les énergéticiens ont quand même envie d'en mettre beaucoup. Et je tiens aussi à dire au micro, hein, que nous avons beaucoup d'énergéticiens qui vendent du rêve aussi. Hein.
Oui.
Donc on voit beaucoup de gens qui reçoivent des propositions.
Attention à des arnaques possibles.
Voilà, et puis des propositions qui sont alléchantes, mais au final, il y a des sujets qui durent depuis 10, 15 ans, où on fait miroiter monts et merveilles, et ça ne voit pas le jour parfois. Donc je pense qu'il faut garder son calme et qu'on trouve des solutions, voilà, encore une fois, collectives, concertées. On a un avantage compétitif qui est le fait qu'on a du soleil,
oui,
et du
voilà,
vent. Donc on ne peut pas s'y opposer, évidemment, mais par contre, il faut être prudent, on ne va pas mettre partout n'importe comment.
Il faut savoir l'utiliser aussi et savoir le vendre éventuellement.
Ouais. Et puis, pour finir sur ce sujet, on porte quand même des valeurs de partage. Et donc, il faut faire attention aussi que ce ne soit pas juste un agriculteur qui profite d'une manne financière énorme. Et puis que ensuite les autres ne puissent pas en profiter. Donc il y a, oui, y a vraiment un besoin de partager cette valeur et ça sera bénéfique à ce moment-là pour tout le monde.
Et c'est-à-dire que quand on est président, par exemple, d'une chambre d'agriculture, il y a une certaine valeur d'humanisme qui doit toujours être présente.
Alors, à mon sens, oui. Après, je ne sais pas si c'est ce que pense tout le monde, mais moi, je pense que oui. D'ailleurs, je pense qu'on a la chance dans ce pays d'avoir une agriculture qui est une agriculture encore de capitaux familiaux. C'est pas le cas partout dans le monde où on a des endroits où ce sont des fonds de pension qui sont propriétaires des terres agricoles et qui gèrent l'agriculture. Nous, ce sont encore ultra majoritairement
à échelle humaine.
À échelle humaine, voilà, avec des capitaux familiaux. Et donc, je pense qu'on ne peut pas être président d'une chambre d'agriculture sans tenir compte de tout ça et sans essayer d'avoir, voilà, ce côté humain, respectueux, durable. Voilà, donc on va s'y atteler. Pendant ces 6 ans.
Un dernier volet, peut-être sera-t-il le dernier, je ne sais pas, mais vous avez dans votre liste des JA, c'est-à-dire des jeunes agriculteurs. Alors évidemment, ça pose de plein pied le problème de l'installation des jeunes, dont on sait que c'est un défi difficile à relever aujourd'hui.
Tout à fait. Ça va être un défi énorme parce que nous avons une proportion très grande d'agriculteurs qui sont à moins de 10 ans de la retraite. Les projections des sociologues qui sont les plus sérieuses amènent à dire que dans 10 ans, il n'y aura que 200 000 agriculteurs. Sans parler de crise, vraiment, par rapport à la sociologie,
à l'évolution normale
de l'âge des gens et du renouvellement actuel. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un enjeu énorme à renouveler les générations. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit au début, mais évidemment que la rentabilité que l'on recherche sur les exploitations sera l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de rentabilité, on ne pourra pas attirer des jeunes. Par contre, la chambre d'agriculture et l'équipe que l'on a mis en place va travailler à faciliter l'installation. Donc, je prends par exemple un sujet qui est le sujet du foncier. Il y a des métiers, même dans l'artisanat, où la mise de départ est relativement faible par rapport à l'activité et au chiffre d'affaires. Nous, c'est l'inverse. En fait, dans le monde agricole, il faut avoir conscience qu'il faut plusieurs centaines de millions d'euros, très souvent, avant d'être installé, avant de commencer à pouvoir tirer un revenu et à faire du chiffre d'affaires. Donc, plusieurs options. Et souvent, on voit que les agriculteurs... encore sont agriculteurs de père en fils, ça c'est une option, donc on repart d'un capital existant et on fait fructifier. Soit on a des moyens capitalistiques qui arrivent de notre métier, on a des gens qui s'installent à 40, 45 ans, qui ont été ingénieurs avant, qui ont eu une autre vie, et donc qui ont les capacités financières à investir dans l'agriculture. Soit on est jeune, sans argent, et on est passionné par l'agriculture, on veut s'installer, et là c'est plus compliqué. Et donc la chambre d'agriculture... avec des outils comme la SAFER, avec des collectivités locales comme la région qui travaille sur le foncier, on doit travailler aussi à de l'innovation économique quelque part pour trouver cette capacité à minima à porter le foncier au début, un peu comme on ferait une location avec option d'achat, pour que le jeune ensuite puisse s'installer dans des conditions normales une fois qu'il aura créé son activité et qu'il aura été capable de tirer un chiffre d'affaires et un revenu de cette activité. Et donc, on peut imaginer sur d'autres sujets que l'innovation économique sera un vrai sujet. Par exemple, on parle beaucoup d'agritourisme. On a parlé d'agrivoltaïsme, on parle de foncier. À une époque, on a inventé les coopératives, on a inventé les signes de qualité. Et je pense qu'on va devoir petit à petit inventer des nouveaux modèles économiques. Je pourrais dire de façon très triviale que mon grand-père a travaillé d'une façon, mon père d'une autre et moi encore d'une autre. Et donc on peut imaginer que ceux qui arriveront derrière nous travailleront encore d'une façon différente. Et donc le rôle d'une chambre d'agriculture, c'est d'essayer de, à la fois d'anticiper ce qui sera nécessaire de faire dans l'évolution et de mettre en place même des choses qui permettent d'aller vers cette innovation économique. Voilà. Et donc le but étant d'avoir une agriculture la plus prospère possible dans ce territoire audois. Aujourd'hui, je répète, on est la première économie du territoire, donc avec tout ce que ça comporte derrière, c'est-à-dire de l'emploi, du social, de l'aménagement territorial, etc. Donc, voilà, notre travail va être de travailler avec les jeunes aussi, bien sûr, pour amener des idées nouvelles, à trouver des nouveaux modèles économiques, parce qu'on voit que nos filières principales souffrent. Alors on n'abandonnera aucune de nos filières, il y aura toujours des circuits longs, des circuits courts, il y aura toujours une façon de travailler qui restera évidemment, mais on devra construire quelque chose
de nouveau. Innovation.
Voilà.
Un tout dernier mot, Ludovic Roux, le premier salon de l'agriculture de Narbonne a eu lieu, j'imagine que le second pour l'automne prochain, vous allez y être à plein dedans, si vous me permettez l'expression.
Alors écoutez, j'espère, oui, ça voudra dire que l'objectif...
Parce que c'est aussi l'image de ce métier.
Tout à fait. Donc j'espère que ça sera le cas. Et ce que je tiens à dire, c'est bon, d'abord de remercier d'ailleurs les parties prenantes qui ont mis en place ce salon, hein, et notamment... le maire de Narbonne qui a vraiment
qui a beaucoup œuvré et qui a misé et parié dessus.
C'est ça, et donc les remercier et surtout dire que j'ai été très très agréablement surpris par l'engouement qu'il y a pu y avoir à la première édition. Donc ça a fait chaud au cœur, je pense, à tous les agriculteurs de ce département, parce que on vit des moments difficiles, encore une fois. L'agriculture est parfois attaquée, hein, par certaines personnes.
Oui, le fameux agri-bashing, voilà. Cette expression.
Et donc, je suis sûr, c'est pas je pense, je suis sûr que mes collègues agriculteurs ont eu chaud au cœur quand ils ont vu ces milliers de personnes qui sont venues les rencontrer à ce salon de Narbonne. Donc, je serai très heureux d'y revenir cette année, et j'espère... pour représenter la Chambre d'agriculture.
Voilà, en tout cas, on vous y retrouvera. Et d'ici là, bien, vous avez devant vous un long chemin pour occuper et commencer d'appliquer votre programme à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Merci Ludovic Roux.
Merci à vous.
Le prochain invité sera le maire de Lézignan-Corbières, Gérard Forcada. Pour les auditeurs, merci de nous avoir suivis et rendez-vous est donné à la semaine prochaine.